La géographie, c'est l'histoire dans l'espace et l'histoire, c'est la géographie dans le temps.
Les historiens britanniques et le Brexit.
Bonjour monsieur, si le bon Dieu avait voulu ce rapprochement, aurait-il creusé la Manche exactement où il l'a creusé?
Je ne peux pas entamer la théologie avec vous, monsieur.
Permettez-moi de vous rappeler qu'il a été fort heureux pour vous autres que la Manche se trouvât exactement où elle se trouvait au temps de Napoléon ou d'Angleterre. Il n'y en aurait plus.
Il y aura toujours en Angleterre.
Les premiers à intervenir ont été les historiens pour la Grande-Bretagne, partisans de la sortie de l'Union européenne, du Brexit. Ils ont d'abord expliqué que le pays était une île, puis développé l'idée que le Royaume-Uni s'étant développé d'une manière particulière, difficile à comparer avec ses voisins continentaux, il serait plus utile au monde en restant à part de l'Europe plutôt qu'en Europe. Point du tout, a répliqué le mouvement qui est né concurremment, l'histoire pour l'histoire. 280 distingués collègues ont signé une lettre ouverte sur le mode « On va tout de même pas laisser un groupe réactionnaire dominer le débat avec une version biaisée du passé ». La fameuse exception britannique mérite révision, affirme-t-il. Pour reprendre une formule de Churchill, le vieux lion britannique, avant de montrer les dents, ferait bien d'aller chez le dentiste. Il n'est pas sûr que l'intervention des historiens dans le débat soit plus appropriée que celle d'autres spécialistes, mais au fond, de quel droit se priverait-on de leurs avis? Les électeurs plus âgés pencheraient davantage vers le Brexit. Ils se prévalent d'avoir connu une Angleterre plus singulière que celle d'aujourd'hui. Mais les électeurs plus jeunes qui pencheraient pour le maintien dans l'Union, eux, s'amuseront peut-être des désaccords qui traversent la corporation.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Jean Duchesne, bonjour.
Bonjour.
Qui longtemps a enseigné la civilisation anglaise dans les meilleures classes préparatoires des meilleurs lycées français et publié aux presses de la Renaissance il y a quelques années. Petite histoire d'anglo-saxonie. Oui, après tout, hein, pourquoi se priverait-on de l'avis des historiens?
Ben, l'histoire donne toujours des arguments, donc bien évidemment, on trouve des historiens des deux côtés dans ce débat lancé en Grande-Bretagne à l'occasion de ce référendum.
J'entends le mot argument, vous ne dites pas leçon.
Non.
L'histoire ne donne pas de leçons.
Mais
si elle en donnait, on les aurait entendus depuis longtemps.
Les historiens sont des profs, donc ils aiment bien donner des leçons.
Oui. Petite histoire d'anglo-saxonie. Alors, les partisans du Brexit, les historiens pour la Grande-Bretagne vont insister sur le fait que depuis 1000 ans, enfin 950 en tout cas, la Grande-Bretagne n'a pas connu d'invasion. Enfin, l'Angleterre, du moins, elle a été peuplée de Romains, d'Angles et de Saxons.
Voilà. Et avant, il y avait des Celtes.
Ouais. Qu'est-ce que c'est les Romains? Ben, c'est une occupation beaucoup moins intégratrice qu'en Gaule.
Voilà, non, c'était une occupation ben, un peu comme partout. Hein. C'est-à-dire qu'on a imposé la loi romaine et puis la population locale devait se plier, accepter ses lois et ses coutumes.
Je pensais après, que vous alliez Romains... dire moins que partout. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de latin dans la langue anglaise.
Ah si, si, il y en a même plus qu'en français.
Ah bon?
Oui, oui, j'ai toujours enseigné à mes élèves que s'ils voulaient bien comprendre l'anglais, ils avaient intérêt à faire du latin et même du grec.
Ouais. Mais je croyais qu'il y avait plus de saxons dans le latin que d'anglais. Puis sont venus en effet les Angles et les Saxons.
Alors ce sont des populations qui sont venues du centre de l'Europe, hein, à peu près l'Allemagne, la Pologne actuelle. Elles eux-mêmes poussées par d'autres vagues migratoires venues du fin fond de l'Asie. Et finalement, il y a eu ensuite, ça c'était à partir du départ des Romains qui n'arrivaient pas à tenir cette île. Où il n'y avait d'ailleurs pas grand-chose d'intéressant. Parce que ce qui est remarquable, c'est que les Romains n'ont pas envahi ni le Pays de Galles, ni l'Écosse, ni l'Irlande. Pourquoi? Parce que c'était trop pauvre, il n'y avait rien d'intéressant. Mais après, sont venus, après les tribus, disons, germaniques, les Angles et les Saxons, sont venus les Scandinaves. Et puis finalement, des Scandinaves qui avaient fait un détour par la France, c'était les fameux Normands de Guillaume le Conquérant.
À la mort d'Édouard le Confesseur en 1066, la couronne peut être revendiquée par un Norvégien... Harold, voilà. Par un Saxon aussi, et puis par le duc Guillaume de Normandie qui vainquit Harold et reçut ensuite l'aval des comtes saxons. Nous sommes en 1066.
Ces Anglais sont vraiment très forts. Dans leur histoire, ils ont bien connu des défaites, comme tout le monde. Mais ils s'arrangent toujours pour les transformer en victoires. Ainsi, chaque année, ils célèbrent l'anniversaire de la fameuse bataille de Hastings, où les Normands de Guillaume ont vaincu les Saxons de Harold. Normands, Saxons, peu importe. Tout cela ferait un jour d'excellents Anglais. Tous les ans donc, en octobre, Hastings, petite station balnéaire du sud de l'Angleterre, où les vieilles dames et les retraités de l'armée des Indes sirotent le thé, revit à l'heure du Moyen Âge. Au fond, les Anglais ont raison. Hastings marque bien le tournant de leur histoire. La fin des invasions, la naissance d'une nation. Au cours de ces 9 siècles, tous les conquérants rêveraient d'envahir la petite île. Philippe II d'Espagne, Napoléon, Hitler. Aucun n'y parviendrait plus jamais. L'invasion de Guillaume était bien la dernière. The last invasion.
Les grandes batailles, Turenne et Costel. Oui, vous confirmez, Jean Duchesne, ce lieu commun, il n'y a pas eu d'invasion. Si, en 1964, un film est sorti qui s'appelle En Angleterre occupée, qui imagine l'occupation de l'Angleterre par les Allemands.
Voilà, c'est distrayant comme peut l'être la fiction. Et ce n'est plus de l'histoire, ça n'a jamais été de l'histoire.
Alors, oui, mais on peut se distraire quand les lieux communs sont un petit peu ennuyeux, faire quelques pas de côté. Vous comparez en cette matière l'Angleterre et le Japon.
Bien oui, parce que c'est un petit peu la même situation. Vous avez un pays qui vit dans une population qui vit dans une assez grande île, au large d'un continent, dans le cas c'est l'Angleterre, au large de l'Europe, le Japon au large de l'Asie, et puis deux pays qui également sont des monarchies et restent des monarchies au fil de l'histoire, quoi qu'il arrive. On pourrait ajouter des choses plus folkloriques, comme le thé et la conduite à gauche. Mais au-delà de ces choses amusantes, il y a quand même de plus profond, c'est que le Japon lui-même est resté très longtemps, plus longtemps encore que l'Angleterre d'ailleurs, eh bien, à l'abri de toutes les influences et invasions continentales, ce qui fait qu'il a d'ailleurs une plus grande unité ethnique que l'Angleterre. Et puis, il y a eu quand même aussi une aventure impérialiste. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, le Japon ne s'est jamais posé la question de savoir s'il faisait partie de l'Asie. Alors, il y a eu une tentative.
Enfin, il voulait bien occuper l'Asie, mais
il a essayé de l'occuper en partie. Il n'y a pas réussi, et seulement au XXe siècle. Ça avait commencé dès la fin du 19e, il y a eu une première guerre sino-japonaise qui leur donnait le contrôle de la Corée et puis d'une partie ensuite de la partie de la Mandchourie. Ils se sont frottés aux Russes aussi en 1904-1905, enfin rien de comparable. Ceci donc montre bien que s'il y a un cas qui présente quelques ressemblances, eh bien quand même on doit le concéder aux historiens pour la Grande-Bretagne, eh bien que l'Angleterre, la Grande-Bretagne au moins, reste un cas unique dans l'histoire, malgré ses ressemblances avec le Japon.
Le Japon moderne sans être occidental, l'Angleterre singulière sans être complètement européenne. Les historiens pour la Grande-Bretagne, les partisans du Brexit, là, le petit groupe qui a lancé l'initiative d'une intervention dans le débat, dit il y a une continuité tout à fait exceptionnelle chez nous, l'administration royale à partir du XIe siècle, et ça va durer jusqu'au XVe, met en place la common law, c'est-à-dire des juges itinérants ou bien des cours royales qui se fondent sur une conception du droit qu'on n'a pas sur le continent où le droit romain l'emporterait.
C'est vrai. C'est vrai, mais ça doit être contrebalancé par d'autres faits non moins historiques, qui sont simplement les tentations des souverains anglais et du peuple qui les suit, eh bien de devenir en même temps roi de France. Alors ça commence, si vous voulez, avec Édouard III. Mais il y a aussi le fait que Henri Plantagenet possédait une bonne moitié ouest de la France, hein, avec un royaume qui s'étendait de la frontière écossaise jusqu'aux Pyrénées. Et si on regarde bien, il s'en est fallu de peu, finalement, que l'Angleterre et la France ne fassent qu'un seul pays.
Les Plantagenets, c'était un empire, peut-être la plus importante monarchie de l'époque, au XIIe siècle, qui franchissait la Manche. Nous sommes maintenant au début du XIIIe siècle. Très important, disent les historiens for Britain, les historiens partisans du Brexit. Il y a déjà un système de check and balance, d'équilibre et des pouvoirs qui se mettent en place sous l'influence des barons qui obtiennent du roi la grande charte, la Magna Carta. Dans le latin, il y a davantage de saxons que... Non, dans l'anglais, il y a davantage de saxons que de latin. Hein.
Oui, oui.
Ouais. Alors là, on est encore en latin.
Les barons veulent seulement que certains anciens droits et coutumes du passé puissent être rétablis et que leurs limites et leurs obligations soient fixées dans une charte.
Ils sont obsédés par les questions de succession, les problèmes de mariage, de tutelle, d'impôts et de dettes.
On ne pourra créer de nouvel impôt qu'avec le consentement du Conseil du Royaume.
Les marchands de Londres insistent pour l'abolition des charges et le libre accès en direction et en provenance du continent.
Aucun homme libre ne pourra être arrêté, emprisonné ou attaqué, si ce n'est par le jugement de ses pairs.
Il ne devra plus y avoir d'augmentation de loyer, ni de réquisition de voitures, ni d'arrestations arbitraires.
Allez dire à vos barons que je vais examiner ce projet.
Seul un pays comme celui-ci peut vouloir revenir 100 ans avant. Aux bonnes vieilles lois d'Henri Ier.
Monseigneur Roi, les bonnes lois d'Henri Ier étaient les bonnes lois de Saint-Édouard le Confesseur.
Oui, je sais. Pour la sauvegarde de la paix et le bien-être du royaume, vous prendrez des mesures pour que je rencontre les barons.
Ah oui, c'est le retour aux conceptions d'avant, mais c'est très prospectif, puisque ça va faire de l'Angleterre en matière politique, les siècles s'accumulant, une nation très particulière.
Une nation très particulière, mais la manière dont je crois on peut, on doit même comprendre la Grande Charte, Magna Carta, c'est tout simplement la faiblesse de la monarchie britannique qui ne réussira jamais à devenir absolue. Hein, il y aura le nombre de souverains anglais qui seront détrônés puis ensuite liquidés plus ou moins proprement est impressionnant, absolument sans comparaison avec aucune autre histoire dans l'histoire d'aucune autre nation. Donc, et ce que cela montre aussi, c'est pas seulement le pouvoir des grands, des barons, mais aussi le pouvoir des commerçants. Parce que l'Angleterre va devenir, en traversant ces crises dynastiques, qui sont des crises politiques profondes, qui sont des crises sur le pouvoir, eh bien, une puissance commerciale. Ce qui finalement motive véritablement la guerre de 100 ans, c'est bien la possibilité du commerce avec les Flandres, dont le roi de France vient de s'opposer. C'est ça qui va décider, au bout de 10 ans de règne, Édouard III à revendiquer la couronne de France.
Alors, les rois qui chutent, les rois qui sont renversés, le roi qui est décapité, les partisans de History for Britain disent « Oh, il y a une certaine douceur qui caractérise nos mœurs politiques. » Tu parles sous les Tudors. La réforme religieuse ne s'est pas imposée aisément. Les Stuarts ont connu bien des mésaventures. Charles Ier a été décapité à l'issue de la première révolution anglaise. Néanmoins, un équilibre, fin XVIIe, début XVIIIe siècle, s'installe qui fait l'admiration d'une grande partie de l'Europe lettrée.
Oui,
l'Europe s'anglicise, dites-vous.
Oui, l'Europe s'anglicise à partir de... La date, on la connaît, c'est 1734, c'est la publication des lettres anglaises de Voltaire.
On s'arrête là un instant, parce que nous avons sous le pied un extrait du Diable d'Homme, le téléfilm de Marcel Camus, avec dans le rôle de Voltaire jeune, qui s'est réfugié en Angleterre à la fin des années 1720, Denis Manuel.
Mais la liberté que je vois et que je ressens dans votre pays, liberté... Penser, liberté de s'exprimer, a fait de moi un autre homme, et qui veut désormais écrire pour aider son prochain.
Mais qu'est-ce que vous faites avec toutes ces mathématiques? Good heavens, mais c'est Newton, et ce globe céleste?
Je rattrape le temps perdu. Au collège, j'écrivais des tragédies au lieu de faire des équations. Et le public français vit dans des superstitions imbéciles. La Sorbonne lui impose l'image d'un ciel liquide, composé d'une multitude de mystérieux tourbillons. Personne en France, ou presque, ne sait que le grand Newton a jeté à la corbeille ces tourbillons ridicules et expliqué toute la mécanique des astres par l'attraction universelle. Donc, j'apprends la mathématique et la physique supérieure pour rendre compte le mieux possible de votre Newton dans mon prochain livre, Les Lettres Anglaises, qui sera vendu partout en France.
Ah, décidément, my dear fellow. Vous serez notre meilleure exportation.
Yes. Les Français doivent savoir aussi que l'égalité devant l'impôt n'est pas une offense à Dieu, mais la condition d'une existence plus digne pour tous les citoyens. Que le travail mérite plus de respect que la noblesse. Et qu'un atelier ou un chantier ou une maison de commerce telle que la vôtre a plus d'importance que le palais d'un roi.
L'impôt que vote le Parlement en même temps qu'il vote les lois. On peut dater ça de...
En gros, bien sûr, après la glorieuse révolution anglaise, qui est une révolution pacifique,
89.
Mais 1788, voilà. Et l'arrivée de Guillaume III d'Orange et de la reine Anne, son épouse, qui elle est anglaise quand même, qui est une histoire. Et donc, à ce moment-là, eh bien, le pouvoir, la monarchie absolue, les prétentions des monarques anglais à la monarchie absolue sont définitivement liquidées. Et donc, va s'installer progressivement une monarchie parlementaire et qui est liée au fait que la reine Anne puis son mari Guillaume d'Orange n'ont pas d'enfants et que donc le prochain prince protestant, puisqu'à l'époque, le catholicisme est identifié à l'absolutisme, le prince le plus proche dans la lignée, c'est un Hanovre qui ne parle même pas anglais. Les deux premiers Hanovres parlent à peine anglais, Georges Ier et Georges II.
Alors, donc, à partir de là, comment regarde-t-il l'Europe? Alors, la dynastie des Hanovres qui vient d'Europe continentale. Ils savent ce qu'est l'Europe, ils savent les dangers qu'il y a quand des puissances concurrencent ou deviennent trop importantes en Europe.
Précisément, ils vont entraîner l'Angleterre à intervenir militairement en Europe. C'est ce qui va être le cas lors de la fameuse guerre de 7 ans, entre 1756 et 1763, lorsque, pour protéger le Hanovre, qui appartient à la couronne, eh bien, les Anglais, après beaucoup d'hésitation, vont faire alliance avec le roi Frédéric de Prusse et contribuer d'ailleurs à sa montée en puissance.
Ils n'aiment pas quand même qu'un monopole s'exerce sur le continent, qui les gênerait.
Ils ont très peur, évidemment. Je crois que ça va être même la clé de toute la politique anglaise au 18e, au 19e et même au 20e siècle. Les Anglais... Alors, ce qui s'est passé, c'est que au XVIIe siècle, à partir du XVIIe siècle, malgré les troubles politiques, eh bien, la colonisation anglaise, la conquête du reste du monde par l'Angleterre, les marins anglais, qui sont des commerçants plus que des militaires, d'ailleurs, va commencer. Et ils commencent avec un bon siècle de retard sur tout le monde, mais ils vont très bien réussir. Et leur grande idée, on le voit bien, la politique anglaise, ça consiste à faire de Londres la plaque tournante du commerce, le centre du commerce, c'est là où, du moins en Angleterre, dans les ports, Liverpool, etc., qu'arrivent les marchandises trouvées dans les pays lointains, le café, le sucre, le thé, l'indigo, le tabac, et que ensuite elles vont pouvoir être vendues dans le reste de l'Europe. Et pour que ce commerce fonctionne, il faut absolument aux Anglais que l'Europe ne soit dominée par aucun grand pays. D'où l'hostilité à la France de Louis XIV, pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons commerciales, et qui montre bien à quel point Louis XIV les avait obligés à entrer en guerre contre les Hollandais, puisque lui-même l'était. Mais c'était une des raisons des chutes de Jacques II et de la glorieuse Révolution.
Le 14, ensuite, Napoléon, on voit d'ailleurs le spectre de Napoléon surgir dans la campagne électorale du Brexit, je ne dirais pas sous la plume d'un historien, mais du grand pamphlétaire qu'est l'ancien maire conservateur de Londres, Boris Johnson, qui dit « Attention, quand il y a un pouvoir continental unique, par exemple celui de Napoléon, il y a danger. Voilà. »
Alors, il y a une période intéressante qui est le 19e siècle où l'Europe, l'Angleterre en pleine expansion ne se sent pas menacée encore par l'Europe, et à ce moment-là on arrive dans la première phase d'isolationnisme. Et je crois que les historiens pour la Grande-Bretagne, les partisans du Brexit, pourraient s'intéresser à la politique de Palmerston, par exemple, et à tous ces premiers ministres anglais qui laissent les Européens s'entre-déchirer parce que, eh bien, tant qu'ils s'entre-déchirent, cela ne nuit pas au commerce et à la prospérité britannique.
Alors, puisqu'on en est au débat chaud d'aujourd'hui, il faudrait qu'on consacre quand même, Jean Duchesne, un petit moment aux 50 ou 60 dernières années pour évoquer le temps où Margaret Thatcher, qui conçoit la communauté économique comme un lieu de libre-échange et pas davantage, et qui veut récupérer son argent si trop de dépenses lui ont été imposées, « I want my money back », on pourrait entendre cette chanson antécédente de Jerry Rafferty, est-ce que je peux avoir mon argent?
Can I have my money back, money back, money back? Can I have my money back, please, sir? Don't hear what you're saying, don't hear what you're doing. Can I have my money back, money back, money back? Can I have my money back, please, sir? I had a preacher man say his way was the best, so I took up his religion and forgot about the rest. Then I had another one calling out my name, and when I took a closer look, he was just the same. Another for the poor, and if you try to change it, they'll nail you to the floor. Can I have my money back, money back, money back?
Marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean Duchesne, nous explorons les lieux communs de la campagne électorale d'avant le Brexit ou le Brexit. Nous sommes un mois avant le référendum en Grande-Bretagne. Les historiens sont nombreux à prendre parti, peut-être plus nombreux que les historiens français dans le débat politique actuel. Qu'est-ce qu'ils disent, les historiens partisans de la sortie du caractère international de l'Union? Pour eux, l'Union, c'est un organisme supranational comme d'autres, l'ONU, l'OTAN,
bien
auquel
sûr.
Ils sont très redevables d'ailleurs.
Évidemment, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a l'intuition, elle le sait, hein, qu'elle n'est plus une très grande puissance mondiale. Il y a désormais les deux blocs, les États-Unis et l'Union soviétique, le bloc communiste. Et l'Angleterre n'hésite pas, bien entendu, elle est du côté du bloc américain, elle est du monde libre. Comme on dira à l'époque. Le changement de gouvernement fait que Churchill, contre toute attente, perde les élections d'avril 1945, ne change rien, et l'Angleterre va devenir et rester un partenaire fidèle, presque pavlovien, des États-Unis. Le dernier épisode a été, on l'a vu, le soutien apporté par Tony Blair à la campagne décrétée par George Bush pour la chute de Saddam Hussein en Irak.
L'OTAN a été fondée en 1949, bien avant le traité de Rome, et la paix, disent les historiens for Britain, elle est davantage due au parapluie de l'OTAN qu'à la politique pleine de bonne volonté de l'Europe de Bruxelles.
Je crois qu'ils n'ont pas entièrement tort. Ce qui permet à l'Europe de faire ses premiers pas, c'est bien le parapluie de l'OTAN face aux tentations des partis communistes occidentaux qui, évidemment, sont hostiles à l'OTAN. Ce qui est remarquable, c'est que le parti de gauche, c'est-à-dire le parti travailliste, le Labour, en Grande-Bretagne, n'est pas hostile à l'OTAN. Il est au contraire un parti très atlantiste.
Enfin, sauf son leader actuel. Mais plutôt que de parler de Jeremy Corbyn, ce qui ne serait pas étonnant, j'aimerais plutôt que vous jetiez
Vous
pourriez jeter Orwell sur le tapis. Ça, c'est plus amusant.
Il y a un phénomène tout à fait curieux, moi, qui m'a toujours beaucoup frappé quand j'ai découvert, il y a longtemps déjà, 1984 de George Orwell, qui est donc une dystopie, qu'il a écrite en 1948. Il a simplement inversé les deux derniers chiffres de la date. Eh bien, donc, le monde est divisé en trois super-pouvoirs qui se font là une guerre perpétuelle en s'alliant toujours à deux contre trois dans un jeu d'alliance qui change. Et donc, l'Océanie, qui comprend les États-Unis, l'Amérique du Nord et l'Angleterre et la Grande-Bretagne. Et l'Europe continentale fait partie, elle, de l'Eurasie, qui est sous les ordres de Moscou. Et puis il y a la Chine, l'Est Asie, qui est beaucoup plus loin. Donc pour Orwell, qui ne pouvait pas être supposé, qui ne peut pas accuser de ne pas être quelque part un Européen, il a vécu à Paris, il a fait la guerre d'Espagne. Donc, eh bien, il n'y a pas de doute, la Grande-Bretagne, eh bien, fait partie d'un bloc, ce qu'il appelle l'Océanie, c'est-à-dire, c'est un satellite des États-Unis d'Amérique.
Mais pour History for Britain, je vais vous faire exprimer leur point de vue, j'ai pas trop de difficultés d'ailleurs, Jean Duchesne, la proximité géographique a beaucoup moins d'importance aujourd'hui qu'autrefois.
Oui, bien sûr, parce que les communications sont grandement facilitées. Et donc, en quelque sorte, ce sont des distances affectives qui comptent et pas des distances qui sont mesurables en kilomètres.
Oui, mais enfin, tout de même, le commerce extérieur aujourd'hui de la Grande-Bretagne, il est majoritairement axé vers l'Union européenne. Ben, le commerce international vers l'Irlande est plus important que celui vers la Chine.
Je suppose que les partisans du Brexit ont confiance que l'Europe aura toujours besoin de l'Angleterre et des produits anglais. Et que donc, en quelque sorte, ces institutions gênent plutôt qu'elles ne facilitent le commerce.
Bon, je sais que vous voulez parler de Jeremy Corbyn, mais moi je veux parler de Churchill, 1930. Churchill, qui est souvent cité par History for Britain. Nous sommes avec l'Europe, mais nous ne sommes pas en Europe. Nous sommes liés à l'Europe, mais nous ne sommes pas compris dans l'Europe. Et le même Churchill, après la guerre, dans un fameux discours à Zurich, parle de la nécessité d'un grand projet d'États-Unis d'Europe sur lequel en ami et en protectrice pourra veiller le Royaume-Uni, mais qui est d'abord la responsabilité des Français et des Allemands.
The first step in the recreation of the European family.
Le premier pas vers une nouvelle formation de la famille européenne doit consister à faire de la France et de l'Allemagne des partenaires.
In this way only,
seul ce moyen peut permettre à la France de reprendre la conduite de l'Europe.
And cultural leadership of Europe. There can be no revival of Europe.
On ne peut pas s'imaginer une renaissance de l'Europe sans une France et une Allemagne intellectuellement grandes. Si l'on veut mener à bien sincèrement l'œuvre de construction des États-Unis d'Europe, leur structure devra être conçue de telle sorte que la puissance matérielle de chaque État sera sans importance. Les petits pays compteront autant que les grands et s'assureront leur respect par leur contribution à la cause commune. Il se peut aussi que les anciens États et les principautés de l'Allemagne, réunis dans un système fédératif avec leur accord réciproque, viennent occuper leur place au sein des États-Unis de l'Europe.
Et l'Allemagne va en effet occuper de plus en plus de place, on le sait. Jean Duchesne.
Oui. Bien, non, là, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans ce dernier discours, Churchill parle librement. Et pourquoi parle-t-il librement? Parce qu'il n'est pas Premier ministre. Il n'est plus Premier ministre. Il est dans l'opposition. Il a retrouvé sa liberté de parole. Ce que n'ont pas les deux leaders actuels. C'est une petite ironie de ce débat. Parce que David Cameron est probablement favorable à l'Europe. Mais il est à la tête d'un parti qui ne l'est pas. Majoritairement. Et inversement, symétriquement, Jeremy Corbyn n'est pas favorable à l'Europe. Mais il est à la tête d'un parti qui, lui, l'est. Si bien qu'on a un jeu de chaises musicales qui est absolument drôle, finalement, Jeremy Corbyn serait mieux à l'aise à la tête des conservateurs et David Cameron serait plus à l'aise à la tête des travaillistes.
Vous parlez de jeu, mais tout ce qu'on a fait depuis le début de cette émission, c'est un vaste jeu, non ?
Oui, bien sûr, c'est un jeu de je te tiens, tu me tiens par la barbichette et le plus menteur de nous deux n'aura pas la tapette.
Mais au fond, est-ce qu'on a plus besoin des historiens que des experts qui calculent les conséquences des modalités de sortie de la Grande-Bretagne du Royaume-Uni? Est-ce qu'on a plus besoin des historiens?
Oui, on a besoin des historiens parce que quelque chose comme l'Europe, c'est pas seulement des institutions, des mécaniques, une bureaucratie. C'est aussi un héritage commun. C'est aussi donc une identité partagée. Et je crois que même si les Anglais sortent, la plupart des Européens resteront anglicisés. Ils nous ont donné le sport, hein, le football, le tennis, le rugby, que sais-je encore. Nous avons notre manière de vivre a été marquée par l'Angleterre. C'est peut-être cela que nous devrions nous réapproprier, non pas eux les Anglais, mais nous les continentaux.
Aux presses de la Renaissance, votre livre toujours disponible, Petite histoire de l'anglo-saxonie, votre dernier livre, Jean Duchesne, sur le catholicisme minoritaire. Vous n'êtes pas partisan de la constitution de minorité, le catholicisme pourtant étant dans cette configuration la première, c'est aux éditions des Clés de Brouwer. Mehdi Fatah à la technique, Clara Garçon pour la préparation, la réalisation, c'est Jacques Sigal. Un rendez-vous lundi prochain, lundi 30 à 20h pour nos auditeurs s'ils veulent rejoindre le Vieux Colombier dans le 6e arrondissement de Paris. Grande restitution des journées du printemps 89 qui nous ont permis de passer un peu tardivement par rapport à l'Angleterre, des États généraux à l'Assemblée nationale. Un numéro que vous pouvez composer, 01 44 58 15 15, 01 44 58 15 15. Tout détail sur notre site. Chez vous, Mathieu Vidard.
Eh bien oui, Jean, on ne bouge pas assez. Il faut qu'on se remue les dangers de la sédentarité dans la tête au carré.
Merci à vous.